France Musique. C'est l'été sur France Musique. Le fabuleux destin de Pauline Viardot, Charlotte Landru-Chandès.
Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode du fabuleux destin de Pauline Viardot. On l'a vu la dernière fois, dans son enfance, Pauline a toujours cru qu'elle deviendrait pianiste. Mais changement de plan à la mort de sa sœur, la diva Maria Malibran. Leur mère, Joaquina Garcia, décide que Pauline sera finalement chanteuse. Au programme de ce deuxième épisode, une tournée en Europe, un coup de foudre amical pour la future Clara Schumann et une histoire d'amour ratée avec Alfred de Musset. Et comme à chaque fois, en guest star, nous entendrons la mezzo-soprano Stéphanie Doustrac dans le rôle de Pauline Viardot.
Vien di letto, Rincello, tutto tace, intorno intorno, finché spunti in cielo il giorno, vien di lenti posa, vien ti posa sul mio dita fredda, Arturo mio, riedi o caro a tui mira. Essa piange te sospira, riedi o caro all'amore,
chose terrible d'être la sœur d'eux ou la fille d'eux. Pauline aurait pu rester toute sa vie dans l'ombre de son père, le grand ténor Manuel Garcia, ou alors n'être que le pâle reflet de sa sœur. Pas facile de passer derrière Maria Malibran, l'une des plus grandes divas de son temps, adulée partout, en Europe, aux États-Unis. Maria, c'était un volcan, une femme passionnée et impulsive. À l'inverse, Pauline est d'un tempérament posé. Elle est douce et discrète. Et physiquement, elle n'est pas gâtée par la nature. Loin d'avoir les grands yeux en amande ou les traits réguliers de sa sœur, Pauline a un physique ingrat, très loin des critères plastiques de l'époque. Elle a les yeux globuleux, une bouche trop large, un visage chevalin, le teint mat et le dos un peu voûté. Mais tout ça n'est pas si important, car après tout, Pauline a beaucoup de charme, de grâce et de personnalité. Et ses airs de fausse timide cachent un caractère bien trempé. Volontaire et déterminée, elle sait où elle veut aller. Elle a ce « je ne sais quoi » qui fascine ses contemporains. Le peintre Harry Schaeffer en tête disait « elle est terriblement laide, mais si je la revoyais à nouveau, je crois que j'en tomberais follement amoureux. » Et il ne tardera pas à l'être. Thank you. L'année qui suit la mort de Maria, Pauline travaille dur. Elle est encouragée par sa mère, la fidèle Joaquina, et son bienveillant beau-frère, le violoniste Charles de Berriot, encore très accablé par la mort de sa femme. C'est à Bruxelles, fin décembre 1837, que Pauline va faire ses débuts de chanteuse. Elle a 16 ans.
C'était à l'occasion d'un concert de charité donné dans la grande salle de l'hôtel de ville. Ce jour-là, il y avait de quoi être intimidé. Le roi, la reine, le prince de ligne, le corps diplomatique, toute la haute société bruxelloise était là. Sans compter tous ces élégants qui se pressaient pour entendre Charles, ils étaient si fiers de leur violoniste national. À l'époque, mon beau-frère avait une excellente réputation. Il triomphait partout en Europe. Pour ma part, j'étais encore une inconnue. Mais mon nom éveillait la curiosité. J'étais Pauline Garcia, la sœur de la Malibran. On se demandait sans doute si j'allais égaler Maria. L'enjeu était de taille et j'étais très nerveuse avant de commencer. Dès que je me suis mise à chanter, mes doutes se sont envolés.
Ce soir-là, Pauline chante un air brillant de la Diavolessa de Galuppi et des chansons populaires espagnoles arrangées par son père, comme à chacun de ses concerts.
Dimmi poi
Ce qui frappe d'abord chez Pauline, c'est la similitude entre sa voix et celle de Maria. Comme le dira plus tard Musset, la Malibran est revenue au monde, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le poète y entend le même timbre clair, sonore, hardi, ce coup de gosier espagnol qui a quelque chose de si rude et de si doux à la fois, et qui produit sur nous une impression un peu analogue à la saveur d'un fruit sauvage. Camille Saint-Saëns ne dira pas autre chose. Ce n'était pas une voix de velours ou de cristal, mais une voix un peu âpre, qu'on a comparée à la saveur de l'orange amère, faite pour la tragédie ou l'épopée, surhumaine plutôt qu'humaine. La technique de Pauline, fidèle à la méthode de son père, est déjà remarquable et impressionne. La voix parcourt facilement 2 octaves et demie, du fa grave au contrut. À cette époque, ce type de voix grave et suave fascine. Le répertoire lyrique évolue et la mode des très populaires castrats, ces chanteurs masculins dont la voix n'a pas mué, décline. C'est au tour des divas d'entrer en scène. Adulées par le public romantique, ces cantatrices ont des voix très larges, aux graves profonds et à l'aigu saillant, beaucoup de lyrisme et de tragique. Elles peuvent tout chanter. L'ambiguïté de leur timbre leur permet aussi bien d'endosser des rôles de femmes que des rôles travestis. Maria Malibran et Pauline Viardot s'inscrivent dans ce courant, bien sûr, mais aussi Isabella Colbran, l'épouse de Rossini, ou encore Giuditta Pasta.
Thank you.
Au printemps qui suit les débuts de Pauline à Bruxelles, Charles de Berlioz emmène sa jeune belle-sœur en tournée en Allemagne. Ce sera d'abord Berlin, puis Dresde, Leipzig et Francfort. Pauline chante devant des publics très haut de gamme, les princes de la famille royale de Prusse ou encore quelques têtes couronnées des pays scandinaves. Berlioz est connu en Allemagne. Il passe pour l'un des meilleurs violonistes de sa génération. Il n'a donc aucun mal à ouvrir toutes les portes à Pauline. À l'époque, la mode est au pot pourri. Les concerts mêlent des genres et des compositeurs qui n'ont pas grand-chose à voir. Il en faut pour tous les goûts. Pauline est fidèle à sa sœur et reprend ses programmes de concert. Elle chante d'abord de l'opéra italien, des airs de Donizetti ou de Bellini. Elle chante aussi en espagnol, fidèle au clan Garcia, et reprend souvent Yo que soy contrabandista, l'air favori de son père. Et en fin de concert, sa botte secrète, le virtuose songe de Tartini de Penseron, déjà très prisé par Maria avant elle. Malheureusement, l'air n'a pas été enregistré et nous ne pouvons qu'imaginer les trilles du violon ou le trémolo final qui a fait la renommée des sœurs Garcia. L'étape à Leipzig marque sans doute le temps fort de cette tournée. Pauline va y faire plus d'une rencontre marquante. Dans les années 1830, la ville de Leipzig est l'un des plus grands centres de musique en Europe. Un siècle plus tôt, le grand Jean-Sébastien Bach en a fait la renommée. Il était cantor de Leipzig, autrement dit maître de chapelle, et nombre de ses œuvres sacrées ont été créées à l'église Saint-Thomas. Mais pour l'heure, c'est un certain Felix Mendelssohn qui fait beaucoup parler de lui à Leipzig. Jeune chef de l'orchestre du Gewandhaus, Mendelssohn est un homme brillant, bouillonnant d'énergie et d'enthousiasme. Il a un physique assez fin, nerveux, et il est de petite taille. À son arrivée, Pauline est chaleureusement accueillie par lui et son épouse, Cécile, qu'elle va trouver d'une grande beauté. Elle est aussi charmée par Karl, leur joli poupon, né quelques mois plus tôt. Une fois les journées de répétition terminées, on passe la soirée chez les Mendelssohn et on s'y amuse bien. Félix apprend à Pauline à jouer au billard. Elle se révèle très douée et prendra du galon avec les années. Pauline rencontre aussi le compositeur Robert Schumann. C'est un génie, un de plus. Mais il est souvent malheureux, frustré de ne pas toujours réussir à retranscrire ses idées musicales. Et pour ajouter à sa tristesse, le pauvre Schumann est aussi en plein désarroi amoureux. L'objet de ses tourments, c'est Clara Wieck, une jeune pianiste de 19 ans qui, comme Pauline, enchaîne les succès.
Clara était déjà une excellente pianiste. On l'encensait à Vienne, à Prague. Elle était poussée par un père ambitieux, Friedrich Wieck, un peu comme Maria l'avait été par papa. Et comme je l'aurais sans doute été aussi, s'il avait vécu davantage. À l'époque, Clara n'était pas encore mariée à Schumann. Monsieur Wieck était farouchement opposé à leur union. Chose terrible, car Schumann était très amoureux. Dès nos premières rencontres, Clara et moi sommes devenus très proches. Nous partagions le même amour du piano et jouions à quatre mains du matin au soir. « Clara avait le teint pâle, les yeux bleus et des cheveux très noirs. C'était une jeune fille timide, calme et réservée, à l'inverse de moi. Je me rendais compte peu à peu que je n'étais pas uniquement la sœur de la Malibran. Je gagnais en confiance et me sentais envahie d'une joie de vivre.
Clara et Pauline resteront amies toute leur vie. Elles s'écriront et se recroiseront parfois, prenant toujours plaisir à jouer ensemble. Pauline se consacrera d'abord à sa carrière. Clara, elle, privilégiera sa vie d'épouse. Autre différence, leurs goûts musicaux. Toute sa vie, Clara ne jure que par la musique instrumentale allemande. Pauline est plus curieuse. Elle s'ouvre à tous les répertoires, lyriques ou non d'ailleurs. Mais pour l'heure, revenons en 1838, l'époque de leur rencontre. C'est là, à Leipzig, que Pauline commence à composer. Ses premiers essais sont des mélodies. Parmi elles, Die Kapelle, la chapelle, sur un poème de Ludwig Uhland.
Oh!
Avant de rentrer en France, Charles de Berriot, Pauline et sa mère font escale en Autriche, puis en Italie. Tous ces voyages enrichissent Pauline. Elle parle déjà 5 langues, l'espagnol, le français, l'italien, l'anglais et l'allemand. On s'en souvient, après la mort de Maria, Joaquina et Pauline s'étaient retrouvés un peu démunis. Heureusement, Charles de Berriot avait été là pour les aider. Cette fois, c'est Manuel Garcia, le frère de Pauline, qui va voler à leur secours lors de leur retour à Paris en octobre 1828. Il leur loue un appartement rue de la Michaudière, quartier à la mode, très prisé des artistes et situé près des théâtres. Bientôt, Pauline est repérée par Caroline Jobert, dont le salon est en vogue. Caroline est une femme pleine d'esprit, élégante, très bonne musicienne amateur. Les rumeurs allant vite, personne n'ignore qu'elle a été la maîtresse d'Alfred de Musset. À présent, la belle et le poète sont amis, complices même. Musset appelle Caroline sa marraine et elle le surnomme le prince phosphore de cœur volant. C'est bien connu, Musset est un grand séducteur. Chez Caroline Jobert, Pauline rencontre du beau monde. Alfred de Musset donc, mais aussi son frère, Paul, ainsi que le prince Belgioioso et l'avocat Pierre-Antoine Berrière. Tous sont d'anciens admirateurs de la Malibran et ils sont déjà conquis par sa sœur Pauline. Ils louent sa conversation, son esprit et sa voix, bien sûr. On est impatient de l'entendre se produire dans une salle parisienne. Le 15 décembre 1838, ça y est. Pauline est à l'affiche du Théâtre de la Renaissance, couramment appelé la Salle Ventadour.
Un an après mes débuts à Bruxelles, je me retrouvais enfin face au public parisien, celui que Maria avait tant ébloui. Ce soir-là, le Théâtre de la Renaissance n'était qu'élégance. Dorures, fleurs, toilettes somptueuses, c'était magnifique. J'étais vêtue de blanc et portais un petit diamant noir sur le front, comme Maria en avait l'habitude. Le public fut troublé par la ressemblance. C'était Charles et ma mère qui avaient choisi le programme. L'air de Costa, que Maria avait l'habitude de chanter, un morceau de Beauplan et le redoutable songe de Tartini de Panseron, qui fait toujours son effet. Le concert avait pu avoir lieu grâce à Alfred de Musset. C'était un grand admirateur de ma sœur et il avait remué ciel et terre pour me trouver une salle. Ironie du sort, il s'y était pris trop tard pour réserver sa loge et avait manqué l'événement qu'il avait lui-même organisé. Pauvre Alfred, il tenait tellement à écrire une critique que j'ai dû lui refaire tout le concert en privé.
Pauline a bien eu raison d'accepter ce concert privé, car l'article de Musset, publié dans la Revue des Deux Mondes en janvier 1839, la porte au nu. Il écrit « Mademoiselle Garcia chante comme elle respire. Quoi qu'on sache qu'elle n'a que 17 ans, son talent est si naturel qu'on ne pense même pas à s'en étonner. Sa physionomie, pleine d'expression, change avec une rapidité prodigieuse, avec une liberté extrême, non seulement selon le morceau, mais selon la phrase qu'elle exécute. Elle possède, en un mot, le grand secret des artistes. Avant d'exprimer, elle sent. » Musset en sens, oui, mais il a tout de même quelques réserves. Le choix du programme n'était sans doute pas idéal. Quelle idée de chanter les musiques obscures de Costa ou de Panseron au lieu d'interpréter des airs de Rossini. Oh, après tout, qu'importe, Pauline les a si bien exécutées. Partout où elle passe, Pauline Garcia séduit. Dans les salons parisiens, on l'a vu, et bientôt à Londres, au Queen's Theatre, où elle joue Desdémone et Cendrillon. Elle reprend tous les grands rôles de Maria et apporte sa touche personnelle. Elle est sensible aux détails, Pauline, et elle a une approche intellectuelle. Pas question d'interpréter un personnage sans s'être longuement renseignée à son sujet. Après Londres, en octobre 1839, Pauline se produit au Théâtre italien à Paris. Excellent lieu pour débuter et se faire une place. Le nouveau directeur est un certain Louis Viardot. À l'époque, bien sûr, Pauline est loin de se douter qu'elle deviendra bientôt sa femme. C'est donc reparti pour un tour avec les héroïnes rossiniennes. Au théâtre italien, Pauline incarne Desdémone, Rosine, Cendrillon. Et en février 1840, elle débute dans le rôle de Tancrède. Là encore, c'est triomphe sur triomphe. Musset, qui n'est jamais bien loin quand Pauline chante, continue à comparer les deux sœurs. Par exemple dans le rôle de Desdémone. Chez la Malibran, tout était expressif, énergique. Chez Pauline, tout n'est que douceur et résignation. Musset écrit que « ce n'est plus la belle guerrière, c'est une jeune fille qui aime naïvement, qui voudrait qu'on lui pardonnât son amour, qui pleure dans les bras de son père au moment même où il va la maudire et qui n'a de courage qu'à l'instant de la mort. » Musset compare aussi Pauline à Mademoiselle Rachel, cette célèbre comédienne dont il est tout aussi amoureux. Même jeunesse, même talent. À 17 ans, elles entrent tout juste dans la gloire. La première est acclamée au théâtre italien, la seconde au théâtre français. Musset voit entre elles une parenté sacrée. Ses muses ont une justesse et un naturel désarmant. Mais les ressemblances s'arrêtent là. Rachel est née dans la pauvreté et Musset nous dit qu'elle est simple, recueillie et silencieuse. À l'inverse de sa petite Paolita, pleine de feu et de vivacité, qui cause comme une artiste et comme une princesse. Et contrairement à Rachel, Pauline ne va pas être une conquête facile. Les jeunes filles de 1830 ignorent certaines choses de la vie, mais certainement pas elle. N'oublions pas que Pauline a grandi dans un monde d'adultes. Elle est parfaitement au courant des ragots qui courent dans les salons, en particulier sur Musset.
Ces déclarations me laissaient insensible. C'était un beau parleur. Il me faisait des avances et ne se gênait pas pour courtiser en même temps Rachel, sans parler de la comtesse Belgioioso. Encore pire, il m'a bien semblé qu'il lui arrivait aussi de se montrer affectueux envers ma propre mère et dire qu'il a eu l'audace de me demander en mariage. Ma mère a immédiatement refusé. Jamais elle n'aurait donné sa fille à un homme volage. À vrai dire, au-delà de ses mœurs douteuses, physiquement, Musset ne m'a jamais attirée. Il n'avait pas 30 ans, que son visage était déjà très abîmé par sa vie dissolue. Il avait les paupières rougies, ses dents et ses doigts étaient jaunis par le tabac. Et il avait cette manière de fixer les gens. Quelle arrogance!
Qu'est-ce qui t'arrive?
On me fait peur.
Qui?
Musset. Méfie-toi, c'est un brutal. Il se venge. Mais d'une femme, bien sûr. Tu sais, les hommes, c'est pas comme nous. Ils sont douillés en amour. Ils trouvent toujours de vieilles plaies à gratter.
Allons, allons, Marie, dépêchez-vous, c'est long.
C'est drôle, hein? L'expérience a endurci les hommes. Ça rend les femmes plus douces.
Ben voilà. Oh, je le savais.
Vous pensiez vraiment m'avoir croqué sans que je le sache? Eh bien, montre-le-moi, ce dessin.
Non, 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 non. Bien raté.
Ne jouez pas avec le désir, Musset. C'est un jeu plus dangereux qu'on ne pense.
Oui, allez, viens. Finalement, de vous avoir dessiné toutes les deux, ça finit par me... Vous venez?
Non, merci. Pas ce soir.
Pauline sait à quoi s'en tenir avec Musset. C'est Georges Sand qui l'a informé. Depuis peu, elle et Pauline sont devenues très proches. Pour Sand, en admiration totale, Pauline est une pierre précieuse. Il ne faut surtout pas la gâter. Quelques années plus tôt, Georges Sand a elle-même été la maîtresse malheureuse de Musset et sait parfaitement qu'il ne conviendrait pas à Pauline. Il lui faut un mari stable, sécurisant, pour qu'elle puisse entièrement se vouer à son art. Et ça tombe bien, Georges Sand a trouvé le prétendant parfait. Son ami Louis Viardot, le directeur du théâtre italien.
Oh, le chien.
George Sand va sortir le grand jeu pour convaincre Pauline et sa mère que Louis Viardot ferait un excellent mari. Ancien avocat, journaliste, homme de lettres, Louis Viardot est un homme du monde. Il a des relations. Il donnerait un statut social à Pauline, lui ouvrirait la porte des cercles mondains et lui apporterait une sécurité financière. Ses qualités sont nombreuses, autant sur le plan physique que sur le plan moral. C'est un homme réfléchi, cultivé, passionné par l'art. Il est loyal et généreux. Et il connaît les Garcia. Il a été très proche de Maria Malibran. La mère et la fille finissent par se laisser convaincre. Le 18 avril 1840, Pauline Garcia devient Pauline Viardot. Fin du deuxième épisode du Fabuleux Destin de Pauline Viardot. Une série de 8 épisodes proposée par Charlotte Landru-Chandès avec la voix de Stéphanie Doustrac dans le rôle de Pauline Viardot. Prise de son, Claude Niort, Fabien Capel, Éric Boissé. Mixage, Benjamin Vignal. Réalisation, Lionel Quentin. Attaché de production, Nelly Portal. D'après les biographies de Patrick Barbier, Michel Friant, Gustave Dulon et Alexandre Zwigilski. Podcast et réécoute sur notre site francemusique.fr. Dans le prochain épisode du Fabuleux Destin de Pauline Viardot, sa grande amitié avec George Sand, les vacances à Nohant et des danses folkloriques avec Frédéric Chopin.
À réécouter sur francemusique.fr.